je vous conseille l'enquête de nos confrères du Parisien. Qui est intéressante d'aujourd'hui en France, le Parisien,
sur RMC Story.
Les grandes villes qui sont plutôt bien ou mal gérées. C'est une longue enquête avec un tableau comparatif de ces villes qui ont les finances dans le rouge ou celles qui sont en vert, celles qui s'enfoncent et celles qui se redressent. Parce que si la priorité des Français pour les prochaines élections municipales, c'est notamment la sécurité, et puis aussi les transports, les travaux. Ensuite, les Français, quand ils voient arriver leurs impôts locaux, ils râlent. Mais les impôts locaux, ça dépend aussi du budget et d'investissement des villes. Et puis là, les grandes villes, ben, certaines ne s'en sortent pas.
J'ai envie de dire que le constat est accablant pour les 12 plus grandes villes françaises qui ont été passées au crible par l'Institut Montaigne. Parce que toutes ces villes sont endettées. Et dans toutes ces villes, on a augmenté les impôts. C'est-à-dire que c'est formidable. C'est-à-dire que les impôts locaux ne cessent d'augmenter. Et la ville s'endette de plus en plus, parce qu'on pourrait imaginer que les impôts augmentent pour rembourser la dette, pour réduire les finances publiques. Non, c'est-à-dire que c'est une fuite en avant. Alors, dans ce marasme total, et vraiment, faut avoir ces chiffres en tête avant d'aller voter dans moins de 3 semaines, je trouve, à Toulon, à Montpellier, à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, Marseille ou Paris, dans ces villes-là. Mais il y a quand même 2 villes qui ont essayé de faire des efforts, 2 maires, un maire socialiste, le maire de Montpellier, Monsieur Delafosse, et un maire centriste, aujourd'hui, macroniste, je ne sais plus trop comment il est, Horizon, le maire de Nice, Christian Estrosi. Mais bon, les 2 villes s'endetter, mais ils ont fait des efforts. Et alors, le pompon, c'est Paris, qui est pourtant la ville la plus riche de France. Hein. Paris, c'est un budget de 12 milliards d'euros, vous imaginez. Donc, il y a de l'argent à Paris. Bon, les impôts ont augmenté, et pourtant, la dette aussi. 10 milliards d'euros de dette. Ça veut dire que Paris, la ville de Paris, paye chaque année 300 millions d'euros d'intérêts sur cette dette, de l'argent qui pourrait servir à autre chose. Ce qui est frappant, c'est que on pourrait dire bon ben c'est de l'investissement, etc. Non, ce sont des dépenses de fonctionnement qui explosent. C'est-à-dire que quand les candidats et notamment les candidats sortants nous expliquent oui mais c'est l'investissement, non, souvent c'est du fonctionnement.
Pour faire tourner la ville.
C'est pour faire tourner les employés qu'on embauche, etc.
Marseille plus 27% des dépenses.
Les associations qu'on finance, parce que alors ça, il faut savoir que ces grandes villes financent beaucoup d'associations, peut-être trop. Bref, c'est une dette inquiétante, notamment à Paris. Et alors quand vous entendez tous les candidats nous expliquer oui moi avec moi ça sera plus de caméras de vidéosurveillance, plus de policiers, plus de pistes cyclables, etc. Mais dites-leur, oui, mais avec quel argent?
C'est pas cher, c'est nos impôts qui payent.
Et qui continuent donc à augmenter.
Et c'est ce que je me dis à chaque fois que je vais dans des grandes villes. Je vois la réfection du trottoir, le projet de nouvelle médiathèque, le projet de machin. Et à chaque fois, je me dis mais d'où vient cet argent? Pourquoi on engloutit autant de sommes d'argent? Tu vois aussi tous les nouveaux bâtiments publics là à Dunkerque. Je vois écosystème, je sais pas quoi, pour héberger l'activité économique. On crée des bâtiments publics. Et donc une fois que t'as investi cet argent, tu crées des charges. Mais en réalité, comme je le dis souvent, c'est un peu la faute des électeurs. Parce que tu votes pour un maire à condition qu'il ait inauguré plein de bâtiments durant son mandat, qu'il ait refait les routes, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? Moi, je suis un contribuable, je paye une taxe foncière en centre-ville de Dunkerque, 1300 ou 1400 euros par an. Et je me dis, mais enfin, arrêtez de nous refaire les routes tout le temps, arrêtez de créer des bâtiments publics et diminuez les taxes. Mais est-ce que les électeurs réfléchissent comme moi? Je suis pas sûr. En réalité, l'électeur, il vote à chaque fois qu'il voit un nouveau truc inauguré, etc. Et donc, c'est comme ça que tu crées de la dépense publique. Continue, tout le temps.
Et il faut pas dire que l'État ne donne pas d'argent, puisque ce que l'État donne aux collectivités.
C'est
locales,
au moins 50% de son budget, la TGF.
Au total, l'enveloppe globale de fonctionnement, c'est 150 milliards.
Bien sûr.
150 milliards. Alors,
une enveloppe qui va être un peu réduite.
Oui.
Et alors, ils ont hurlé. Les maires hurlent. Oui, on n'a plus d'argent.
Faire des économies.
C'est l'impossibilité de faire des économies.
Elina.
Écoute, c'est vrai que ça pose vraiment question. Et je me posais aussi la question par rapport à certaines villes. Parce qu'il y a des villes quand même, par exemple. Moi, j'ai toujours dit tout a un coût. Peut-être, par exemple, les villes où les cantines sont gratuites. Bon, vous allez me dire, beaucoup de gens sont pour, mais ça a un coût. Et voilà, faut bien acheter les produits, payer les salariés. Certains sont pour les transports gratuits sous certaines conditions. Peut-être que tout ça, en fait, on devrait le payer. enfin les villes où ça a lieu.
Ouais. Enfin, c'est toi qui payes, enfin, c'est toi qui payes.
En réalité, le contribuable, il paye deux fois dans certaines villes. Il paye beaucoup d'impôts, et en plus, sur la question des cantines, s'il est aisé, qu'il a déjà payé des impôts, il sera parmi ceux qui doivent payer plus cher la cantine que les autres.
Ouais.
Et donc, je suis d'accord avec ton raisonnement, mais en plus, il y a un effet ciseau pour ceux pour qui c'est toujours gratuit, qui ne payent pas d'impôts, et pour ceux qui payent des impôts, et en plus, qui vont payer plus cher.
Avec les effets coefficients familiaux,
Charles. Non, mais à Paris, par exemple, on sait, maintenant c'est largement documenté, à quel point il y a eu un gaspillage d'argent public qui est énorme, que ce soit les subventions à des associations débiles, les subventions à des projets lunaires à l'étranger, les ruches du Togo, les basketteurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée, enfin des trucs hallucinants, les emplois fictifs, je veux dire, Madame Pulvar est toujours en poste comme adjointe à l'agriculture de la mairie de Paris. J'aimerais bien qu'elle vienne nous expliquer de quelle agriculture, quelle est l'agriculture qu'elle gère à son poste d'adjointe à l'agriculture. Quel champ agricole dans Paris, Madame Pulvar,
sur les toits,
le champ de Mars,
supervise-t-elle? C'est vraiment, je pose la question. Je pense qu'on est quand même dans le foutage de gueule.
C'est l'emploi fictif,
pur et simple, je pense. Bah, en tout cas, ça y ressemble. Ça ressemble à un emploi fictif. J'aimerais qu'elle nous explique qu'est-ce qu'elle fait concrètement.
Si Audrey Pulvar nous écoute,
comme adjointe à l'agriculture à la mairie de Paris, en quoi est-ce qu'il faut qu'on la paye pour gérer l'agriculture de Paris intramuros? Je n'ai pas vu là. Je me balade souvent dans Paris, me déplace souvent. J'ai pas vu beaucoup de champs de colza ni d'élevage de bœufs. Mais peut-être qu'il
y a quelques bœufs à Paris quand même.
Je demande à voir. Ensuite, il y a dans le reste du pays, on le voit très souvent, des dépenses absurdes. Il ne faut pas occulter quelque chose qui, à mon avis, est très sous-estimé, c'est le détournement d'argent public, tout simplement. Puisque les travaux, très souvent...
Qu'est-ce que tu appelles détournement? Ça, c'est illégal.
Là, c'est l'avocat qui vous parle. Très souvent, les dépenses de travaux publics sont l'occasion de sortir de l'argent public d'une manière assez opaque qui permet de redistribuer ensuite cet argent. Ça vaut d'ailleurs aussi pour les associations. Très souvent, les associations servent en réalité à redistribuer de l'argent pour faire du financement politique ou pour faire de l'enrichissement personnel. Quand on s'étonne de certaines subventions à des associations, il n'y a pas besoin de gratter beaucoup. Souvenez-vous de l'histoire du fonds Marianne, par exemple, qui impliquait notamment Madame Schiappa. On s'est aperçu que c'était en réalité de l'argent qui était détourné. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'associations et c'est le cas pour beaucoup de travaux publics qui ne sont qu'une manière de décaisser de l'argent. Donc ça, c'est un sujet. Et enfin, dernier sujet, effectivement, le double coût des choses pour les administrés, pour les contribuables, et notamment la prise en charge de dépenses qui, à mon avis, peuvent être regardées. Moi, j'avais pris l'exemple des cours de Pipo de Chantal. Souvenez-vous des cours de Pipo de Chantal. Un reportage de France 2 avec des trémolos dans la voix nous expliquait que Chantal, retraitée, je crois que c'était à Cholet, si ma mémoire est bonne, n'aurait pas pu prendre ses cours de Pipo si elle avait dû les payer au vrai prix. Pourquoi? Parce qu'au vrai prix, c'est très cher, les cours de Pipo, bien évidemment. Mais donc, c'était pris en charge par la municipalité, ça lui permettait de payer quasiment pas cher.
Moi, je suis désolé, mais
si j'étais maire de la ville en question, je supprimerais la subvention au cours de Pipo et j'inviterais Chantal à se démerder toute seule et à regarder un tuto sur YouTube pour apprendre à faire du Pipo si elle y tient tellement. Mais je pense qu'on n'a pas
si
à
Chantal
payer
nous regarde,
pour ça.
Chantal, elle.
Peut-être qu'elle a progressé en Pipo. Mais moi, je pourrais prendre un exemple, le logement à Paris, parce que c'est la façon dont on utilise notre argent public. Est-ce qu'il est bien utilisé? La mairie de Paris a acheté à prix d'or des immeubles dans Paris pour en faire du logement social. Mais alors, au prix du marché, donc ça coûte une fortune puisque l'immobilier a explosé à Paris. Donc on se retrouve à une défense. C'est d'ailleurs en grande partie la dette vient de là. C'est une dette liée à la politique du logement.
L'investissement dans l'immobilier, c'est 2 milliards
et demi. Pourquoi? Pour construire à chaque fois 24 logements sociaux. C'est pas des choses. Mais en coûte, ça mange plusieurs millions d'euros d'achat. Ensuite, il faut rénover, il faut réhabiliter. On donne ça au logement social. Bon, est-ce que vraiment c'est une bonne politique? Je suis pas sûr. Alors qu'à Paris, il y a plein de bâtiments publics qui sont vides, qui pourraient être réhabilités, etc. Mais il y avait un peu une envie idéologique de dire, attendez, on va s'en prendre au privé, on va aller dans des arrondissements où il y a peu de logements sociaux, notamment les arrondissements de l'Ouest. Mais voilà. C'est ce genre de dépenses qui ont, en en grande partie vidé les caisses de Paris.
Je vais te dire un truc. Là, on a lancé une proposition de loi par rapport justement au logement vacant. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais je peux t'assurer qu'il y a toute une catégorie de députés, dont l'extrême droite et la droite dure, ils refusent
qu'à... Non, mais moi, je dis pas logement vacant privé, moi, je dis logement vacant public, pardon.
Vacant
à Paris,
public, je parle aussi.
À Paris, il y a beaucoup de bâtiments, à la fois municipaux et de l'État, qui sont vides, qui
oui,
ne servent
ça,
à rien.
Je suis d'accord, moi, je suis d'accord.
Et qui pourraient très bien être réhabilités. L'État pourrait d'ailleurs, pourquoi pas le donner ou faire un bon prix à la mairie de Paris. Mais c'était idéologique. L'idée, c'était d'aller, par exemple, acheter des apparts, des immeubles dans le 16e arrondissement, ou Place des Vosges, le fameux immeuble du Place des Vosges. Ça coûte une blinde. Mais vous comprenez, on aura mis des pauvres chez les riches, ça leur fait les pieds. C'est, en gros, c'est ça. On en est un peu là.
Olivier,
je suis pas sûr que ça soit très efficace.
Je voudrais juste rajouter
alors
un truc.
Alors qu'il faut loger les gens à Paris.
Vas-y. Pour contredire ce que vient de dire Charles. Par rapport aux associations, alors moi je travaille que dans le monde associatif.
J'ai pas dit que toutes les associations servaient à faire du financement
mais
politique.
Sache que là,
mais je sais qu'il y en a.
Peut-être, mais sache que depuis les coupes budgétaires, il n'y a jamais eu autant de licenciements dans les associations, voire il y en a qui vont disparaître. Et il y a même des grosses institutions, des associations institutionnelles qui ont été obligées de faire du licenciement. Et ce que tu dis, peut-être ça existe. Bon, moi, je l'ai pas vu. Mais je peux t'assurer que là, ça va très très mal pour le monde associatif actuellement.
Le remboursement des intérêts de la dette à Paris, c'est 300 millions d'euros par an. Nous sommes avec Olivier, il nous appelle de Béziers. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
On regarde un peu ce panorama, ce palmarès des villes endettées, des villes bien gérées. Qu'en est-il à Béziers alors, dites-moi?
Écoutez, sur le dernier mandat du maire actuel, la dette a augmenté de 20%. Elle était d'à peu près 100 millions et allait dans les 123 millions de dettes. Ça, c'est les chiffres de 2024. Mmh. Et donc, vous parliez de faire du beau. Alors, effectivement, il y avait un besoin à Béziers de vraiment de rénover. Ça, là-dessus, il y a aucune contestation possible. Donc, il a rénové vraiment l'hypercentre. C'est, esthétiquement, c'est très, très beau. Mais à côté de ça, malheureusement, le taux de pauvreté de la ville reste le même. D'un point de vue économique, il n'y a pas eu d'enrichissement particulier. En tout cas, cette dette n'a pas produit de bénéfices pour la ville et malheureusement, malgré ces investissements dans la police, la sécurité, quand on voit les chiffres de la délinquance qui ont augmenté, on est quasiment à 6 000 crimes et délits maintenant sur la ville de Béziers, on dit que le beau c'est bien, malheureusement ça fait pas tout et je pense qu'il est important de voir les choses un petit peu autrement.
Oui, bien sûr. Mais en fait, moi, on peut investir, mais derrière, il faut faire des économies. En fait, la difficulté, d'ailleurs, ça a été le problème de Macron pendant 10 ans. C'est-à-dire que il a baissé certains impôts, mais il a pas fait d'économies à côté. Mais, donc ça fait exploser les déficits.
Mais Olivier, les impôts locaux ont augmenté.
Oui, les impôts locaux ont augmenté, bien sûr. Mais ça, après, je veux dire, les impôts
bien
locaux...
Bien sûr, comme si c'était évident.
Oui, mais là, Olivier, du coup, si vous et les Biterrois ne sont pas satisfaits de ce qui s'est passé à Béziers, les élections municipales sont là pour ça. Justement, pour sanctionner le maire sortant, c'est donc Robert Ménard. Puis peut-être prendre une alternative politique et dire, au candidat et à la liste qui vous promet de désendetter la ville, faire des économies autres, Olivier.
Après, je dirais que la dette, en fait, je pense qu'il faut distinguer deux types de dettes. Il y a la dette vertueuse qui va créer de la richesse, où là, effectivement, endetter une ville, c'est pas forcément gênant d'endetter une ville. Si jamais vous ramenez l'économie derrière.
C'est le bon mauvais cholestérol.
Ça. Je veux dire, si d'ailleurs vous aviez ramené de la richesse, ça serait pas dérangeant. Simplement, la ville est toujours aussi pauvre que ce qu'elle était avant, et c'est là où moi ça me dérange. Donc oui, bien sûr, il faut reprendre. Et après, il y a pas que les impôts locaux ont toujours été chers à Béziers. Voilà, enfin, en tout cas, depuis que j'y suis, c'est bien pour ça.
Il y a pas l'entreprise.
Ouais, il y en a plein qui ne payent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Déjà, les gens ne payent pas forcément, il n'y a pas de propriétaires qui vont la payer, l'assiette fiscale est très basse, il y a 30% des gens qui payent l'impôt sur Béziers, je crois, de tête, donc forcément, il faut élargir cette assiette fiscale,
les mêmes qui payent.
Et c'est pas simple, il faut ramener les gens qui travaillent, il faut créer de l'emploi, il faut créer des...
Mais vous dites, il y a un bon investissement, le problème, c'est que cet investissement se fait sur l'emprunt, pas sur la baisse des dépenses, c'est d'ailleurs ce que dit l'Institut Montaigne, c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire qu'on emprunte pour investir, or on devrait baisser les dépenses, et puis là, les économies dégagées servent à investir, c'est ça une bonne gestion.
Olivier, on va continuer notre discussion et je vous renvoie justement vraiment à cet article de nos confrères aujourd'hui en France, Le Parisien, juste avant les élections municipales. C'est intéressant de voir les coûts de fonctionnement,
les
dépenses.
Les belles promesses, ça fait voter.
Et dans un instant, justement, on sera avec la directrice de l'Institut Montaigne. Sont eux qui ont passé au crible les villes, qui ont regardé ce qu'on dépense. Ce sont essentiellement des dépenses de fonctionnement, des dépenses de recrutement aussi d'agents municipaux qui n'ont cessé d'augmenter. Alors aujourd'hui, les villes bien ou mal gérées, on en discute avant les élections municipales. Un premier tour 15 mars, deuxième tour le 22 mars. On en discute avec vous au 32-16. Là, Olivier nous appelé de Béziers. avec les grandes gueules, avec Elina Dumont, avec Charles Consigny et avec Antoine Diers, en direct sur RMC et RMC Story, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story, les grandes gueules qui s'intéressent aux élections municipales ou plutôt aux villes qui sont bien ou mal gérées. Ça, c'est un véritable enjeu parce que quand on regarde les priorités des Français, les priorités de vote pour les élections municipales, certes, il y a la sécurité, mais il y a aussi les finances, les impôts locaux, la manière dont la ville est gérée. C'est un grand article du Parisien qui s'appuie sur ce que dit l'Institut Montaigne. Et c'est Marie-Pierre de Bailliencourt qui est avec nous, directrice de l'Institut Montaigne. Bonjour Marie-Pierre de Bailliencourt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui fait que la dette des villes se creuse? Alors, quel est le motif principal?
Il y a d'abord un motif d'inefficience de gestion en général, donc beaucoup d'embauches de fonctionnaires, des temps de travail assez limités, et puis évidemment beaucoup d'investissements. Alors des investissements d'infrastructures, des investissements scolaires, des investissements environnementaux. Mais le problème que l'on constate, c'est qu'il y a une décorrélation entre des promesses et une surenchère de promesses électorales de la part des candidats et les moyens qu'ils ont en face de traiter et de financer correctement ces promesses, puisque beaucoup de nos grandes villes sont surendettées et que les impôts locaux ont globalement déjà augmenté de 9% dans la précédente mandature pour financer justement toutes ces dépenses. Vous savez qu'à Paris, par exemple, la taxe foncière a augmenté de 52%, et pourtant Paris est la ville la plus endettée de France.
Oui, mais alors quand j'entends ceux qui sont actuellement les élus parisiens, d'ailleurs certains se présentent à la succession d'Anne Hidalgo, ils disent mais c'est pas grave, les agents de nos stations continuent à bien nous noter à Paris, donc on peut continuer à s'endetter parce que c'est du bon endettement.
Alors, vous avez raison, il y a un mauvais endettement et un bon endettement. Le bon endettement, c'est celui qui prépare l'avenir. Le mauvais endettement, c'est celui qui maintient un train de vie qui n'est pas soutenable. Ce que les candidats oublient souvent, c'est que ces mairies, ces municipalités, elles vivent de dotations de l'État, c'est-à-dire d'un transfert d'argent national vers le bloc communal. Et aujourd'hui, vous connaissez l'état des finances de la France, il y a une obligation de stabiliser notre dette. Et donc, pour stabiliser la dette de la France, la charge de la dette de la France, il va falloir faire des économies. Et donc, les municipalités vont être concernées par cet effort. Et il est étonnant de constater que quasiment très très peu de candidats vont sur la trajectoire de l'effort à faire pour stabiliser les finances.
Non, c'est même le contraire, parce qu'on les entend faire de grandes promesses. Alors l'un va proposer les transports gratuits dans sa ville, l'autre va dire on va aménager des voies supplémentaires pour les vélos, on va refaire des places, des caméras de vidéosurveillance. Moi, je ne vois d'ailleurs à gauche comme à droite et au centre que des dépenses supplémentaires annoncées.
Tout à fait, comme si la seule manière de gagner, c'était de promettre toujours plus. Voilà. Donc il n'y a pas de réflexion sur la vision globale et sur la France dans laquelle on veut vivre. Et nous, Montaigne, on considère que ce n'est pas forcément très responsable et qu'il y a un devoir de la part de nos élus à proposer des choses finançables.
Mais un devoir aussi de la part des électeurs, parce que les élus, ils répondent aussi à une demande. C'est-à-dire que j'imagine, si le candidat arrive et dit, écoutez, moi pendant 6 ans, pas une seule dépense supplémentaire, on va faire des économies, à mon avis, il est sûr d'être battu. Hein.
Non, mais si on pose les choses en termes d'arbitrage, est-ce que vous voulez la gratuité de votre transport local ou est-ce que vous voulez que ce transport il soit rénové, il soit sécurisé, il soit propre, il soit étendu pour vos déplacements pendulaires, ou est-ce que vous voulez qu'il soit gratuit? On se rend compte que souvent, les citoyens ne demandent pas la gratuité des transports et pourtant c'est ce qui est systématiquement proposé dans plusieurs villes.
Mais il y a aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui on a du mal à s'y retrouver entre la commune, les communautés de communes, les métropoles. Et on ne sait plus qui fait quoi. En revanche, ils embauchent tous dans ces collectivités territoriales, quoi.
Absolument. Alors j'invite vos auditeurs à lire un rapport qu'on a publié il y a une dizaine de jours avec Jean-Dominique Senard et Jean-Luc Bourlange qui s'appelle « Responsabilité, plaidoyer pour l'accent » et qui justement dénonce cette confusion entre les différents périmètres de l'action publique et cette superposition des strates administratives. Et comme plus personne ne sait qui fait quoi, plus personne n'est responsable de rien. Et donc, on milite, nous, pour ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire la responsabilisation de ceux qui décident et de ceux qui font.
Mais attendez, en plus, ces communautés de communes et ces communes, elles recrutent toujours.
Alors oui, il y a très très peu d'effets d'échelle, si je puis dire, d'optimisation, de mutualisation d'efforts. On a vu ensuite ensemble, que, enfin on a vu précisément qu'il y avait 125 000 fonctionnaires territoriaux qui avaient été recrutés en plus ces trois dernières années pour au titre des intercommunalités et qu'il n'y a eu que 25 000 réductions d'effectifs auprès des communes. Donc l'intercommunalité ne mutualise pas les moyens.
D'accord. Et tout le monde fait son temps de travail, ses heures de travail ou pas ?
Alors, c'est assez aléatoire. Il y a plusieurs audits de la Cour des comptes, des Cours des comptes régionales, qui dénoncent justement une inefficience de l'action publique. Après, il faut faire attention aux généralités, mais globalement, il y a de quoi faire mieux avec moins, oui.
Merci d'avoir été avec nous, Marie-Pierre de Bailliencourt, directrice de l'Institut Montaigne. Je sais que vous êtes en pérégrination du côté du Salon de l'Agriculture,
absolument,
je crois.
Absolument, c'est important de parler au terrain.
Merci d'avoir pris quelques instants pour nous.
Je rebondis sur ce que je posais comme question, parce que je pense qu'il y a bien sûr la responsabilité des élus qui ne sont pas raisonnables, mais il y a aussi les électeurs. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire aux belles promesses. Il faut aussi arrêter de...
C'est ce que je disais en
début. J'écoutais encore hier soir le débat à Lyon. Même Jean-Michel Aulas, qui se présente comme étant peut-être le plus sérieux dans la gestion des deniers publics, lui-même promettait la gratuité des transports en commun pour ceux qui gagnent moins de 2500 euros. Donc même lui, il est dans cette logique.
Mais nous sommes arrivés dans un certain nombre de villes au point où il y a moins de 50% de contribuables. Oui. Moins de 50% des habitants payent de l'impôt.
Oui, donc
tu ajoutes à cela les agents de la municipalité, à qui tu vas promettre juste avant l'élection une augmentation, etc. Et donc tu as une majorité de gens qui ne payent pas d'impôts. Donc forcément que plus personne te dit qu'il faut baisser les impôts, ou du moins majoritairement on te dit plus qu'il faut baisser les impôts, puisque majoritairement les gens n'en payent plus. Et ça retombe toujours sur les mêmes.
On a Romain qui va en discuter avec nous, les appels de La Rochelle. Bonjour Romain.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue sur RMC, RMC Story. Qu'est-ce que vous en dites alors, Romain, de ces endettements de ville ? Alors, dites-moi.
Moi, je pense dans un premier temps qu'il ne faut pas en vouloir aux communes, mais plutôt au système qui est national. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, une commune va recevoir pour l'année une subvention. On va dire, par exemple, une petite commune reçoit, je dis n'importe quoi, 50 000 euros. S'il ne dépense pas l'intégralité de cette subvention sur l'année, son budget de l'année suivante, il est réduit.
Je suis pas sûr de ça.
Écoutez-moi, vous travaillez dans le marché public, à chaque fois on me dit qu'il y a une queue budgétaire et qu'il me faut faire tel devis parce que sinon l'année prochaine on n'a pas la même subvention.
Le service verra son budget restreint, mais la commune elle va toujours toucher la même DGF, donc dotation globale de fonctionnement versée par l'État, mais effectivement le service qui n'a pas dépensé tout son argent.
Est-ce qu'il serait peut-être pas mieux de se dire on récompense une commune qui a fait des économies sur l'année ? Et on lui alloue peut-être un budget supplémentaire sur lequel, lui, il pourra avoir un projet...
S'il fait les économies, elle va conserver l'argent qu'elle n'a pas dépensé, la commune. On peut être vertueux.
Je suis pas...
Je vous le confirme.
Je voulais parler d'un autre sujet qu'on ne parle pas beaucoup, c'est l'UGAP. L'UGAP, si je ne dis pas de bêtises, l'UGAP, il appartient...
C'est quoi ? Il faut expliquer ce que c'est. Faut expliquer ce que c'est l'UGAP. Alors toi qui as été
c'est un groupement de
directeur publique. De cabinet.
Une centrale d'achat en gros.
Voilà, c'est une centrale d'achat en fait pour toutes les choses que tu veux acheter, y compris une cafetière, une chaise. Tu dois passer par un marché public. Et donc la commune, au lieu de lancer un marché public pour acheter une chaise, va commander sur le catalogue de l'UGAP qui a lancé elle un marché public au niveau national pour l'ensemble des communes.
Oui, mais lui, alors donc la commune passe par l'UGAP, passe par ceux avec qui ils ont fait des accords, et derrière,
et la chaise,
l'UGAP prend une marge.
Trois fois le prix.
Oui, c'est ça, et ce qu'ont dénoncé des maires, c'est donc une obligation de passer par l'UGAP.
Pour tout, tu dois avoir une procédure de marché public
alors
au moins mise en
référence. Parfois, la chaise ou la machine à café, elle coûte deux ou trois fois moins cher.
Dans le magasin à côté de la mairie.
Dans le magasin à côté, ou si on va à la grande surface, ou si on la commande sur Internet, quoi, c'est ça.
Donc en fait, des économies, je pense que... Il y a vraiment possibilité d'en faire, mais c'est tout un fonctionnement qui doit être revu. Je pense pas qu'au niveau de la commune en elle-même,
ça peut être fait s'il y a des lois qui sont faites au niveau national déjà.
Vous voyez,
c'est déjà par là qu'on doit revenir.
Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce que nous disait Marie-Pierre de Bailliencourt il y a quelques instants, c'est que chaque année, vous avez le rapport même des cours régionales des comptes qui dénoncent...
Chambre régionale des comptes,
tu as raison.
Qui pointe du doigt tout ça.
Qui pointe du doigt ces problèmes budgétaires, qui pointe ces excès de dépenses, le manque d'investissement dans le temps de travail effectif, etc. Ce n'est jamais suivi des faits. Là, par exemple, cette UGAP, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, elle est terminée, on arrête avec ça? Qui est à la tête de l'UGAP? Qui tient l'UGAP? Parce que c'est ça le problème. Plus 30%, je regardais sur certains investissements ou fournitures de bureaux par rapport au coût que payent les Français si tu vas acheter la chaise. Quoi.
Le problème, c'est pas tant l'UGAP que la réglementation sur les marchés.
Oui, mais c'est la réglementation à changer.
Ouais. On est bien d'accord.
Alors, il faut reconnaître, par exemple, Anne Hidalgo, avait tenté de faire travailler plus ses agents puisqu'ils n'étaient pas aux 35 heures. Elle était hors la loi d'ailleurs. Elle n'avait pas tellement le choix parce que elle avait été déclarée hors la loi puisque la loi c'est 35 heures, c'est pas 32 heures. Mais ça a été un casse-tête parce que forcément il y a eu des menaces de grève et autres. C'est compliqué de changer des habitudes qui sont prises sur des années parce que à Paris, faut être honnête. Certes, Anne Hidalgo en est en grande partie responsable parce qu'elle a fait deux mandats, mais ça a commencé sous Delanoë. Il y a Bertrand Delanoë, on dit il est formidable, etc. Mais enfin, il a commencé à endetter. La ville sous son mandat. Et en fait, c'est des mauvaises habitudes qui sont ensuite reconduites de mandat en mandat.
Alors, ce qui est extraordinaire, je remercie Romain d'avoir été avec nous, parce que je regardais quand même l'UGAP, qui est l'Union des groupements d'achat public. C'est placé sous la tutelle du ministère chargé du budget. Donc, c'est-à-dire que le ministère du budget, qui lui-même contrôle les comptes publics, a sous tutelle un organisme où tu achètes plus cher et où tu endettes. Donc c'est un non-sens total.
Parce que c'est
quoi.
Un système. D'accord.
Et moi, j'aimerais avoir une pensée pour les petites communes, parce que là, on parle des grosses communes qui dépensent sans compter, mais il y a dans notre pays de très nombreuses petites communes où ils ont fait le choix de toucher uniquement la DGF, donc ce qu'ils reçoivent de l'État, et de ne pas avoir de taxe foncière. Il y a des petites communes rurales où tu n'as pas de taxe foncière et où les gens disent, le week-end du 12, toutes les bonnes volontés, on va repeindre la porte de l'école, etc.
Il y a aussi beaucoup de petites communes qui gaspillent beaucoup d'argent public aussi.
Il y en a aussi. Mais ce que je veux dire, c'est
et qui font des travaux inutiles.
T'as la petite commune qui se tape un délire piscine et qui d'un seul coup bascule dans
le rond-point paysager. Oui, mais le fameux rond-point, vous savez, avec un truc horrible au milieu. Et qui coûte une fortune. Alors ça fait vivre l'entreprise locale. Je comprends bien le paysagiste du coin, il est content. Mais
c'était le gendre du maire d'ailleurs.
Il se trouve que c'est le gendre du maire et que celui qui a fait le rond-point, c'est son beau-frère. Mais bon,
c'est ça, bien sûr.
Et oui.
Il y a le Parisien qui avait sorti un article intéressant sur ce fameux groupement des achats publics l'UGAP. Sur l'UGAP. Les chaises pliantes polyvalentes en plastique. 274 € dans le catalogue de l'UGAP.
La chaise.
Ça fait 68 € la chaise. Alors que le même modèle chez IKEA qui a les mêmes caractéristiques est à 14,99 € l'unité.
Tout est dit.
14,99 € la chaise sur le catalogue IKEA et tu la payes sur le catalogue de l'UGAP 68 €. Montant total des achats publics chaque année par cet UGAP, 150 milliards.
Ouais. Ça fait peur, hein?
Ah bah t'as la réponse, tu sais où faire des économies.